C'est de Jacques Lacan, plus précisément, que nous allons parler en compagnie de sa première biographe à tous égards, Elisabeth Roudinesco, dont la biographie de Lacan lui avait en son temps valu d'être attaquée par les adorateurs de Lacan comme par ses adversaires. Deux fatwas pour un seul livre, c'est remarquable. Il n'est pas donné à tout le monde de déplaire à tant de gens.
Et du domaine de la foi, vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez ? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira. Comment est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas un ou une qui vivrait jusqu'à 150 ans? Mais enfin, quand même, c'est là que la foi reprend sa force.
Bonjour Elisabeth Roudinesco.
Bonjour.
On vient d'entendre Jacques Lacan. Alors, il se trouve que l'extrait a été amputé de ses deux premiers mots. C'est quand même important, puisqu'il parle de la mort. Il dit la mort est du domaine de la foi. Alors on dit de Lacan que c'est un génie, un escroc, un élévateur, un manipulateur, un sorcier, un chaman, un philosophe, un gourou. Et si Lacan, Elisabeth Roudinesco, était tout simplement le dernier surréaliste?
On peut dire ça.
Et si on l'appréhendait de cette façon-là?
L'influence du surréalisme a été importante chez Lacan, qui a d'ailleurs fréquenté les surréalistes. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce débat est un peu terminé sur escroc ou génie, parce que maintenant on est dans l'histoire. Moi, je suis assez contente. Finalement.
C'est la raison pour laquelle je vous propose d'en parler comme d'un surréaliste.
Mais non, parce que c'est pas seulement ça. Voilà, c'est-à-dire que Lacan a drainé toute l'histoire du siècle dans sa refonte de Freud. Il est marqué par le surréalisme dans les années 30, sans aucun doute, mais surtout par la philosophie allemande, Hegel, qui avait été exclu de la psychanalyse, au fond, par les praticiens français de l'entre-deux-guerres, qui étaient devenus des purs médecins, chauvins pour beaucoup. Et Lacan redonne une dimension philosophique à la psychanalyse. Alors, bien entendu, les surréalistes ont été avant lui, hein, puisque Breton disait je suis freudien en Hegel, je suis hegelien en Freud, etc. Donc, Hegel et Freud, c'était chez Breton, et ça va être évidemment chez Lacan. Mais Lacan va donner une dimension en s'appuyant sur Heidegger, Husserl, et la lecture de Hegel par Kojève va, dès l'entre-deux-guerres, avoir cette posture très importante de réintellectualiser toute cette aventure.
Alors vous parlez d'une dimension philosophique, Heidegger, Husserl, Hegel, Kojève, d'une certaine façon aussi les phénoménologues, mais
oui.
En amont de cela, est-ce que ça n'est pas tout simplement Platon? Dans la conférence de Louvain dont on vient d'entendre
bien
un
sûr.
Extrait, il y a un autre moment au cours duquel Lacan dit on dit des psychanalystes qu'ils en savent un bout, puis là il fait un silence, il dit ils en savent même un rayon, hilarité générale à ce moment-là, et il continue en disant, en gros, hein, je le cite de mémoire, ils savent beaucoup de choses, mais ils ne savent pas qu'ils les savent. Or ça, c'est la formule de la maïeutique chez Socrate.
Oui,
on en a parlé hier avec Izzy Beller. Est-ce que finalement Lacan n'est pas, d'une certaine façon, à la façon de Socrate, un accoucheur?
Mais bien sûr, c'est très clair, par exemple, dans son séminaire sur l'amour, qui est très important, puisqu'il va commenter très longuement le banquet. Qu'il soit dans cette posture-là, c'est évident, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a appelé son école, non pas association, mais école. Il se réfère, bien sûr, à la philosophie grecque en permanence. Il se réfère à toute la philosophie. Alors, de temps en temps, c'est Spinoza, hein, ça c'est pour la thèse de médecine. Ensuite, tous ces séminaires sont toujours des commentaires des grands philosophes. Donc Lacan, d'ailleurs, dans beaucoup de pays, et notamment en Allemagne, Lacan...
Il est présenté comme un philosophe ?
Oui, je suis traduite à peu près dans toutes les langues sur Lacan, et c'est très intéressant de voir quand je vais à l'étranger, disons que quand je vais à l'étranger pour Lacan, c'est les universités de philosophie. Quand j'y vais pour Freud, c'est plutôt les praticiens, parce que Freud n'est pas lu comme un philosophe en Allemagne, par exemple, alors qu'il est de culture allemande. Donc il faut comprendre que Lacan maintenant fait partie de l'histoire et de la psychanalyse, mais aussi du patrimoine culturel français, et donc de la philosophie. Et s'il n'y avait pas eu Lacan en France, on ne serait pas ici, là, aujourd'hui, à parler de psychanalyse. Parce que...
S'il n'y avait pas eu Lacan, et également l'ambition, peut-être pour le coup, proprement philosophique, d'apporter de la nouveauté dans le champ psychanalytique, en particulier le champ psychanalytique français, d'apporter de la nouveauté en repartant de ses débuts.
Oui.
Car Lacan, on le dit suffisamment, est moins le continuateur de Freud que le refondateur, en un sens, de Freud.
Ah oui,
en tout cas, telle était son ambition. Non, il faut revenir là-dessus, pour ceux qui l'ignorent.
Ce que moi je montre dans ce livre, d'ailleurs dans l'histoire de la psychanalyse et le Lacan, qui sont donc repris ensemble en poche, si vous voulez, c'est que, en effet, sur ce plan-là, Lacan n'est pas freudien au sens classique du terme. C'est une relecture de Freud qui va faire de lui un freudien. Autrement dit, le freudisme, c'est l'ensemble des écoles analytiques. Par certains côtés, Mélanie Klein appartient à l'histoire du freudisme. Mais c'est une lecture tout à fait nouvelle, unique au monde. C'est pour ça qu'elle va faire école ensuite dans le monde entier. C'est que, précisément, Lacan fait cette lecture particulière. Freud était au fond un darwinien.
Vous diriez ça ?
Ah oui, mais la référence est claire. Freud voulait être du côté de la science, la plus évoluée de son temps. Puis ensuite, il est allé vers la spéculation, à partir des années 20. Il a toute cette œuvre que j'aime énormément, le dernier Freud.
Le dernier Freud après la guerre, en
bien
fait.
Bien sûr,
le Freud de la pulsion
de
mort, et puis l'homme Moïse.
Tous les travaux sur Totem et Tabou, l'homme Moïse, où là, il sort complètement de ce modèle, mais tout en gardant le Moïse est traversé du darwinisme le plus intelligent. Mais c'est un darwinisme intelligent, c'est pas le darwinisme social, raciste, racialiste, etc. C'est pas du tout ça chez Freud, c'est la grande spéculation. Mais le modèle est darwinien. Lacan, le modèle, et en effet il doit beaucoup au surréalisme, le modèle c'est le langage, c'est Saussure, c'est la révolution structuraliste. Donc on change d'épistémé. Comme on va dire. Et il va retrouver, bien sûr, Freud autrement. Et bien entendu, il est beaucoup plus philosophe que Freud. Freud aurait été absolument effrayé de voir ça. Certainement.
Freud se méfiait des philosophes. Est-ce qu'on peut dire de la psychanalyse, d'ailleurs, de façon générale, qu'elle est l'enfant de la médecine et de la philosophie ?
Oui, c'est ce que j'ai toujours dit. Elle est l'enfant des deux. Et en tout cas de la philosophie allemande, parce que Freud se méfiait d'autant plus qu'il était complètement marqué à son insu par la philosophie. Il était marqué par toute la philosophie allemande, et même à son insu. On peut dire que la théorie freudienne du sujet telle qu'elle est élaborée, elle n'aurait pas pu être élaborée s'il n'y avait pas eu avant la phénoménologie, Hegel et toute la philosophie allemande. Même s'il se situe ailleurs. Alors Lacan, lui, il va au fond ramener le refoulé de Freud, ou le refus de Freud, et réinscrire toute cette aventure en l'intellectualisant. Le défaut de l'époque, c'était pas psychanalyse adaptative, le moi, tout ça. Ce qui était épouvantable quand Lacan fait sa refonte, et notamment celle des années 50, c'est que la psychanalyse était engluée dans le monde entier dans une simple thérapie. Très honorable, il s'agissait de s'occuper des gens, tout ça était très bien. Moi, j'ai pas une critique fondamentale à faire. Mais il n'y avait plus du tout la dimension intellectuelle qu'avait Freud. On avait abandonné, c'était devenu une simple médecine de l'âme. Et là, Lacan relance cette affaire de façon beaucoup plus intéressante, notamment pour la jeunesse.
Mais cette refécondation de la psychanalyse par la philosophie passe aussi quand on voit Lacan. Et là, je me situe, en vous posant cette question, Elisabeth Roudinesco, j'allais dire, en deçà de toute érudition sur Lacan, j'en serais bien incapable d'ailleurs. Donc, en deçà de toute érudition, quand on voit Lacan, quand on l'écoute, quand on écoute notamment ses silences, quand on regarde le visage qu'il fait à ceux qui l'écoutent, le visage qu'il adresse à ceux qui l'écoutent, on a le sentiment qu'il adresse son visage à ceux qui l'écoutent, qu'il n'adresse pas seulement ses paroles, mais également son visage, et voir sa tenue, voir la forme de ses cigares. Quand on voit cet homme-là, on se dit qu'il n'a pas seulement ajouté ou fécondé la psychanalyse en lui ajoutant une dose de philosophie ou en exhumant la philosophie qui s'y trouvait à son insu presque, mais qu'il l'a d'une certaine façon poétisé.
Oui.
C'est ce que je veux dire, c'est vous avez parlé des surréalistes, c'est pour ça que j'avais commencé par ça. Lacan était ami de Dali. Il y a chez lui un élément poétique, un élément de, j'allais dire, de folie, folie-sophie.
Moi, je l'ai comparé à Maria Callas. Alors, donc on va. Bon, j'ai fait un portrait. C'est un baroque, Lacan. C'est un orateur inouï. Je l'ai très bien connu, hein. C'est un grand fauve, c'est un personnage du XVIIIe siècle qui a en effet une manière d'enseigner, enfin l'oral est fondamental chez Lacan. Cela dit, cette époque était très étonnante parce qu'on pouvait se déplacer du séminaire de Barthes à l'enseignement de Deleuze, que j'ai fait puisque au départ je suis élève de Deleuze, au séminaire de Foucault, il y avait des grands orateurs. Et il s'inscrit dans cette tradition aussi, des grands orateurs.
Tradition plus, magnifique.
Plus hein, que les autres, oui. Puisque lui, toute son œuvre est orale quand même. Tout est oral chez Lacan. Il n'y a pas d'œuvre écrite sauf sa thèse. Et les écrits, c'est la transcription d'articles eux-mêmes transcrits de l'enseignement oral.
Vous êtes d'accord avec Solers quand il dit, juste une question, vous êtes d'accord avec Solers quand il dit qu'il y a un embarras spécifique de Lacan par rapport à l'écrit, une préciosité, un tarabiscotage, un charabia parfois inutile, alors que sa parole, elle, est familière et percutante, son écriture est nouée, empesée.
Non, je ne dirais pas qu'il y a charabia. Il y a charabia de Lacan à la fin. Voilà, le dernier Lacan que j'ai analysé.
Mais c'est parce qu'il écrivait avec des chiffres à ce moment-là.
Oui, non, mais là il y a une évolution vers une folie, sans aucun doute. En tout cas, un trouble. Et là, oui, toute la fin de Lacan, j'ai appelé ça la recherche de l'absolu. Bon, Solers a raison, bien sûr. Il a très bien connu Lacan, comme moi, on était proches. Je pense que là, il veut plutôt parler de ce dernier Lacan, mais la difficulté de la lecture de Lacan qui existe, c'est pas le charabia, c'est le baroque, c'est la difficulté tout de même de l'écriture qui existe. Il a toujours eu besoin de quelqu'un pour transcrire ses séminaires. Ça a été, les écrits sont réalisés par François Valle, et Lacan à ce moment-là, c'est 1966, à 65 ans, quand pour la première fois il y a un livre. La thèse est ensuite rééditée.
Ce qui confirme l'hypothèse, ce qui, Elisabeth Roudinesco, si, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais confirme l'hypothèse socratique,
oui.
Finalement, de l'accoucheur qui ne produit pas de livre.
Enfin, sauf qu'il, finalement, il va y avoir 25 volumes.
Oui, mais malgré lui.
On peut dire ça, mais en même temps, il avait le souci de l'écrit, parce qu'il passait son temps à dire « ce qui n'est pas écrit n'existera pas ». Donc, il avait le souci de rester à la postérité. Il y avait le grand angoissé Lacan, et ça passe aussi dans cet enseignement, très très angoissé, personnage fascinant, avec évidemment des facettes épouvantables hein, que j'ai montrées, mais... J'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, dans notre époque assez conformiste, Lacan ferait scandale de nouveau.
Alors, il ne serait pas le seul. On va rester encore une seconde sur cette hypothèse, l'hypothèse du scandale de Lacan, et en particulier de son rapport, à défaut du surréalisme, au moins du baroque. Voilà un baroque surréaliste dont on va tous reconnaître la voix. Écoutez.
La célèbre méthode par un critique, il a la vertu que c'est une méthode que j'ai inventée il y a maintenant plus de 35 ans, et malgré qu'il fonctionne à merveille, encore aujourd'hui, moi-même, je ne sais pas en quoi elle consiste. Mais une chose est certaine, c'est qu'il sert merveilleusement pour gagner de l'argent. Et vous savez que l'argent... Et surtout l'or, c'est une de mes passions. Après Madame Dali, c'est ce que j'aime le plus, c'est l'or. C'est pour ça qu'à New York, quand je dors le mieux, c'est quand à la fin de la journée, je pense à la quantité de chèques et de dollars que je vois tomber comme dans une diarrhée. Alors là, on s'endort avec une satisfaction inouïe. Cette méthode... que je ne sais pas en quoi elle consiste, elle a été quand même définie. Et la définition est la suivante. Méthode paranoïa critique, deux points. Méthode spontanée de connaissance irrationnelle, grâce à laquelle on dirige et on rend tangible tous les phénomènes délirants. Et alors quand je dis tangible, ça veut dire que ces phénomènes délirants sont rendus cartésiens. C'est pour ça qu'il y a un mot paranoïaque, c'est le maximum du délire, et critique, qui veut dire le maximum de raisonnement. Tout ça, ça voudrait dire, d'une façon courte, que Dali est un fou de bonne qualité et de précision. Un fou de précision.
Underground, cup and brownie blink as they emerge.
Elisabeth Roudinesco est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance, à mi-chemin d'une semaine sur la psychanalyse, donc dans les Nouveaux Chemins, et à l'occasion notamment, entre autres, de l'apparition en poche de son Histoire de la psychanalyse en France et de sa biographie de Jacques Lacan, deux textes réunis en un seul volume au livre de poche. Je vous les recommande, évidemment, sans partage. Alors, Elisabeth Roudinesco, on a entendu Salvador Dali, tout simplement parce que la voix de Dali me rappelle, et nous rappelle en vérité, quand on a préparé cette émission, rappelle la voix de Lacan. On a le sentiment finalement que l'un et l'autre, d'une certaine manière, sans aller dans la même direction, parlent du même endroit.
Oui. Oui, ils se sont rencontrés deux fois.
Vous le racontez,
deux histoires extraordinaires.
Vous racontez un déjeuner à New York.
À New York,
au restaurant Bruxelles.
Les deux vieillards se retrouvent. C'est absolument fascinant.
Le plus fou des deux n'est pas celui qu'on croit.
Non, n'est pas celui qu'on croit.
Celui qui fait des nœuds, c'est Lacan.
Lacan fait des nœuds à ce moment-là. Il est pris dans les nœuds et Dali fait des dessins sur Mais la paranoïa critique, c'était quelque chose de très sérieux. C'est-à-dire que, en effet, cette époque-là du surréalisme, le deuxième surréalisme, où on commence à s'intéresser au discours de la folie. Et donc, montrer que c'est pas quelque chose qui est hors de la raison. Et ça, en effet, Lacan, il faut pas l'oublier, est d'abord psychiatre. Freud commence avec la neurologie à Vienne, s'occupe essentiellement des névrosés. Lacan commence avec l'hôpital psychiatrique, l'aliénisme, comme on disait. Son premier grand cas, c'est un cas de folie, donc je raconte, folie féminine. On s'intéressait à l'époque beaucoup aux femmes folles, à la paranoïa, à l'exacerbation du féminin. Donc, les extases de Dali, par exemple, ces merveilleux tableaux, enfin bon, c'est un univers extrêmement lacanien et baroque, 18e siècle, toujours la référence. Par certains côtés, sur ce plan, c'est pas du tout freudien. Freud est un romantique, 19e siècle, le romantisme devenu scientifique. Lacan est beaucoup plus un homme des lumières sombres. La référence à Sade est forte, la référence à Adorno, bien entendu. Il faut pas oublier cet aspect-là aussi.
Et puis, restez aussi, vous parlez de la folie, restez aussi, par exemple, dans une démarche qui ressemble à celle de Foucault. C'est l'ombre des Lumières. Ces gens-là écrivent contre l'ambition cartésienne d'exclure les fous du cercle de la raison. Ambition dont ils font la généalogie, chacun à leur manière, s'intéressant à la folie comme telle. Et donc, par là même, décatégorisant la notion de folie.
Oui, et d'ailleurs quand
La désenclavant.
Oui, et d'ailleurs quand l'histoire de la folie sort, Lacan est émerveillé.
Est au début des années 60.
On est au début des années 60. Et d'ailleurs Foucault, qui aura des critiques très dures contre les lacaniens, qui prendra position d'ailleurs pour Deleuze, restera très admiratif sur le fond de Lacan. Nos deux contemporains, Sartre et Lacan, il y a chez Foucault cette idée quand même que Sartre et Lacan ont été quelque chose de capital dans l'histoire de cette époque. D'abord parce que les deux, par rapport au maoïsme, ont eu une importance considérable. On n'a pas eu de virage vers le terrorisme en France. Avec ça, c'est toute une histoire qu'il faut écrire, que j'ai.
Vous diriez
abordé.
Que Sartre et Lacan ont permis à ce que on fait en sorte que les maoïstes ne deviennent pas terroristes en
oui,
France.
Oui, tout à fait. Mais ça, je l'ai écrit longuement.
Parce qu'on pourrait aussi dire qu'ils ont apporté une caution intellectuelle et qu'ils ont d'une certaine façon béni de tout le prestige qui était le leur. Les discours délirants des maoïstes.
Les témoignages que j'apporte sont contraires. C'est-à-dire pour beaucoup, ils étaient, il y a quelques témoignages que j'ai apportés, ils étaient prêts à virer. Et Lacan prend en analyse un certain nombre. Donc venez chez moi, on va faire une autre évolution. Hein, c'était ça, cette idée. Et ensuite, ça rentre dans un autre ordre. Et Sartre aussi, par sa ce sont les deux pères sévères qui agissent, l'un comme frère, c'est Sartre, qui accompagne le mouvement, mais en même temps empêche cette dérive qu'on a eue en Italie, maoïste ou pas, hein, je parlerai plutôt de la dérive terroriste, il y a cette protection sévère, je dirais, qui empêche la dérive et qui fait revenir vers autre chose. Alors après, on peut critiquer, pas aimer, c'est pas le problème.
Mais on reste dans la sphère du débat à ce moment-là.
On reste dans la sphère intellectuelle, et ça passe pas aux actes. Et là, il y a un témoignage que j'ai de Jean-Michel Ribette, hein, qui est très clair, qui disait s'il n'y avait pas eu Lacan, je posais des bombes. Donc, il faut pas oublier cette fonction. Alors là encore, socratique, hein, de Lacan, les deux grands contemporains. Et Foucault, qui a participé à ça, en était parfaitement conscient et l'a dit. Donc, il se passe là un phénomène très français, très particulier. Il y a aussi les témoignages de ceux qui parlent lacanisme, sortent du maoïsme, hein, bien sûr. Bon, moi, c'est pas mon histoire, parce que je suis jamais entrée dans le maoïsme.
Ça n'est pas votre histoire, Elisabeth Roudinesco, mais quand même.
Pas le maoïsme. Hein.
J'entends bien. Tout de même, comment expliquez-vous cette dilection du maoïsme pour Lacan, ce lien? Est-ce que c'est un goût pour la dissidence? Après tout, Lacan était d'une certaine façon en position de dissident par rapport au freudisme orthodoxe. Est-ce qu'on peut considérer que les maoïstes eux-mêmes se vivaient comme en dissidence par rapport à l'Union soviétique et qu'à cet égard, ils se sont retrouvés dans la parole de Lacan, j'allais dire presque a priori, avant d'y découvrir d'autres choses?
La jeunesse, c'est pas ça. C'est Lacan qui est saisi par ce qu'il appelle sa meute de normaliens, dont son gendre, qui devient maoïste.
Oui.
Ils deviennent maoïstes. Et Lacan ne supporte pas. Il n'est pas du tout là-dedans. Lacan n'est pas du tout fasciné par le maoïsme et la révolution culturelle. Il est un conservateur en politique, conservateur éclairé, bien entendu, et il est saisi par la jeunesse qui et ses meilleurs disciples qui passent au maoïsme. Donc, ce qu'il va dire, c'est la vraie révolution n'est pas là. Vous cherchez un maître et vous allez le trouver. Donc, il y a cette critique qu'il fait. Donc, il n'est pas du tout fasciné. Il dit, au fond, le vrai maître, c'est moi. Et revenez de ce côté-là. C'est un sceptique, c'est un homme de la... Alors, sur ce plan, il est freudien. Hein. C'est un homme qui critique les illusions du progrès tout en étant lui-même dans les Lumières. Et c'est comme ça plutôt qu'il faut voir les choses. C'est plutôt lui qui les ramène dans l'ordre de la raison. Ça tient aussi à sa position qui a été fondamentale par rapport à l'histoire de la psychanalyse, que Lacan a compris la césure d'Auschwitz. Parce qu'il avait lu le texte d'Adorno et Horkheimer, La dialectique de la raison. Et c'est lui qui ramène la question juive dans l'histoire de la psychanalyse. Lui, le non-juif.
Est-ce que c'est en ce sens qu'il faut entendre Elisabeth Roudinesco le jour où il arrive à son séminaire et il dit, le dieu obscur, et il dit, mais en fait, ce que vous voulez, c'est un père.
On peut dire ça, mais c'est avant. C'est-à-dire, la question juive est avant. C'est capital, parce que c'est comme ça que ça va réintellectualiser. Il dit, on ne peut plus penser la psychanalyse sans prendre en compte à Auschwitz, parce que c'est ce que Freud avait prévu avec sa théorie de la pulsion de mort. C'est dit très clairement. Et quand il fonde son école, il dit, on doit réfléchir à ça. Donc, il n'y a pas seulement la question d'accompagner les maoïstes pour les faire accoucher d'autre chose. Il y a aussi... tous les psychanalystes juifs de ma génération vont beaucoup plus à l'école freudienne qu'ailleurs. Pourquoi?
Parce que vous dites l'école freudienne, c'est chez Lacan.
Lacan qui
l'a
fondée.
Il faut le préciser, parce que tout le monde ne sait pas que l'école freudienne désigne Lacan, justement.
École freudienne de Paris, fondation 1964, Lacan dit le dieu obscur, nous devons réfléchir sur l'holocauste. Il emploie d'ailleurs le mot holocauste à ce moment-là. Mais c'était dit depuis très longtemps, et notamment dans le dans Kant avec Sade, bon, qui est un texte que j'analyse aussi bien dans Questions juives que dans l'histoire de la psychanalyse. Et là, on a vraiment un grand moment. C'est lui qui ramène cette question, alors que les Freudiens sont englués dans cette affaire, parce qu'il y a eu la collaboration de Jones avec les nazis, et qu'ils ne savent pas penser leur histoire. Autrement dit, Lacan permet aussi, à un moment donné, à toutes les gens qui sont dans des subjectivités différentes, je ne dis pas des communautés parce que c'est un mot que je n'aime pas, mais dans des histoires personnelles différentes, engagées politiques, communiste, marqué par Auschwitz, de se retrouver à un moment dans une aventure critique.
Elisabeth,
moi, c'est différent. Oui. Hein, j'étais pas maoïste, j'étais beaucoup plus esthète, beaucoup plus social-démocrate en politique et dans une...
Plus Salvador Daliste.
Non, pour moi, le grand moment, ça a été 66, le structuralisme. J'ai trouvé que c'était formidable. J'ai une formation littéraire, de linguiste, bon. Donc, ça me passionnait, moi, la révolution des structures. Puis, j'étais incapable de m'engager comme ça, fanatiquement, dans quelque chose.
Bon, mais est-ce que vous diriez que Lacan était un gourou au sens où il se présentait à ceux à qui il parlait comme le détenteur, au sens où on la met en détention d'ailleurs, de la vérité, ou bien un père au sens où il était aux yeux de ses élèves, non pas le détenteur de la vérité, mais tout simplement le garant du fait qu'il y a une vérité quelque part et qu'il est là pour, j'allais dire, garantir l'existence d'une vérité qu'il ne détient pas.
La deuxième option est la bonne. Le mot gourou, je ne l'emploie jamais pour les psychanalystes et certainement pas pour Lacan, parce qu'il est connoté secte. Et gourou, il faut le garder, ce terme quand il y a le corps qui rentre en jeu dans la relation transférentielle, le corps réel. Hein. Lacan, c'est quand même l'homme de la parole et de la raison, donc qu'il ait suscité des hagiographies, un culte de la personnalité épouvantable, c'est clair, c'est évident, mais c'est pas par l'irrationnel. Donc c'est un autre phénomène, donc je mets pas le mot gourou, et de même, je ne parle pas de l'histoire des psychanalystes en chapelle et en association comme des sectes, parce que c'est un autre domaine. Même s'il y a des aspects sectaires, critiquables, il faut bien mettre les choses à leur place.
Alors on va entendre...
Donc pas gourou, mais en effet, vous avez raison, garant d'une certaine vérité...
Garant du fait qu'il y a de la vérité.
Mais bien sûr qu'il y a ça, mais il y a quelque chose aussi de, je dirais, de féminin chez Lacan, qui est très frappant. Il a été certainement un meilleur analyste de femmes que d'hommes. Bon. S'il a fait avancer dans la théorie quelque chose de très important, c'est la sexualité féminine. Il a dépassé et Freud et Mélanie Klein, et il avait un rapport à la féminité très particulier. Il était très féminin dans son comportement.
Donc on va en reparler, ça, justement, de la féminité de Lacan, ce qui est une affaire tout à fait passionnante. Avant cela, hein, restons dans les sujets qui fâchent. On va entendre François Roustan, lequel, d'ailleurs, est l'invité des Nouveaux Chemins demain. François Roustan, qui a une particularité d'avoir été très lacanien, psychanalyste, puis d'être passé ensuite à l'hypnose et d'avoir, d'une certaine façon, abjuré la psychanalyse. De tout cela, nous parlerons avec François Roustan demain. Ici, on va entendre François Roustan dans un entretien qu'il donne dans une série de DVD dont on vante les mérites, hein, cette semaine, les 14 DVD des éditions Montparnasse, où vous êtes également, Elisabeth Roudinesco.
C'est formidable, ce truc.
Intitulé Être psy, c'est un travail formidable.
De Daniel Friedman.
Absolument. Alors, il y a, ce qui est étonnant d'ailleurs dans ces DVD, c'est qu'il y a deux entretiens, il y a 1983 et 2016, ce qui fait qu'on vous voit tous à 25 ans d'intervalle, ce qui en soi, d'ailleurs, je dois dire, est une information. Mais alors, ici, on va entendre François Roustan parler justement des lacaniens comme au temps d'Ayatollah. Écoutez.
Ce que je constate, c'est que auprès d'un certain nombre de gens que je connais, c'est que Lacan a produit des gens, surtout à la fin, des gens qui sont capables, qui ont été capables d'être terrorisés par lui et qui maintenant sont capables de terroriser d'autres. Et on voit se former des groupes d'analystes qui sont des groupes de terroristes. Je crois que ça rejoint bien, si vous voulez, ce que l'on pouvait dire de la psychanalyse devenue religion. Moi, à mon avis, ces petits analystes, maintenant, sont devenus des véritables petits ayatollahs. C'est-à-dire qu'ils sont, ils passent leur temps à essayer de soumettre un certain nombre de personnes qui veulent faire carrière dans l'analyse et qui, au bout d'un certain temps, de fait, deviennent semblables à leur analyste, c'est-à-dire qui terrorisent leurs patients.
La situation mérite attention. Mon enfant, n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quelles que soient pour lui vos sentiments. Mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, les questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa. Il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant va-nu-pied ou un prince mendiant. Mais de grâce, oubliez cet hymen insensé. Mon enfant.
Elisabeth Roudinesco, que vous inspirent les diatribes de François Roustan contre les lacaniens traités d'ayatollah? Enfin, certains d'entre eux, en tout cas, traités d'ayatollah. Il n'a pas tort, non?
Alors, il désigne un phénomène exact avec des mots exagérés, surtout venant de quelqu'un qui a été un adulateur de Lacan. Ah,
peut-être sait-il de quoi il parle.
Moi, je n'ai jamais été, voilà.
Oui, mais peut-être sait-il de quoi il parle, justement.
Oui, mais vous savez, là, ça,
la quand on est prisonnier d'un dogme, on peut le repérer chez les autres.
La soumission volontaire, ça existe. Bon, voilà, on n'est pas du tout dans l'ordre du terrorisme au sens de l'ayatollah, on est au sens de la soumission volontaire. Alors, ce que je voudrais dire là-dessus, c'est pour ça que j'emploie pas le mot terrorisme, le phénomène historique de toutes les sociétés analytiques ont toutes produit la même chose, c'est-à-dire des chapelles avec des maîtres qui, à la fin de leur vie, étaient adulés dans un culte de la personnalité. Mélanie Klein, la même chose. Freud, à la fin, autant, moins parce que malade, parce que c'est autre chose. Et puis c'est le fondateur. Donc ce phénomène a existé, je l'ai vécu moi-même, j'ai jamais été capable de m'y livrer. Bien. Donc ça existe. Et je dirais que pour être fidèle à un héritage, il faut être totalement infidèle. Il faut bien entendu critiquer ça. Mais changer, se convertir du lacanisme absolu à l'anti-lacanisme, moi, c'est pas ce que je fais dans la vie. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Le phénomène existe. Peut-être.
Mais alors revenons sur le phénomène lui-même, laissant de côté la trajectoire de François Roustan sur laquelle on reviendra demain. Oui. Le phénomène d'adulation
existe dans partout.
J'entends bien, mais ici en particulier.
Non, Lacan, le phénomène d'adulation existe avec tous les maîtres. Bon, il y a des perroquets de tous les grands maîtres, des perroquets de Foucault, de Lacan. Bon. Alors, bien entendu, ça existe, mais en même temps, il y a une certaine richesse du mouvement psychanalytique qui a aujourd'hui environ 18 associations psychanalytiques. Il y a des lacaniens qui ne sont pas du tout comme ça. Il y a toutes les possibilités. Il y a des lacaniens extrêmement sectaires. Il y a des lacaniens beaucoup plus raisonnables. Disons que Lacan est passé dans le patrimoine et maintenant, 30 ans après, il y a un héritage à peu près raisonnable et Lacan est passé dans les grands refondateurs de la psychanalyse. Alors maintenant, l'imitation, évidemment, il y a beaucoup de défauts chez tous ces perroquets lacaniens, bien entendu, mais les perroquets des autres écoles existent aussi, les perroquets de Roustan existent tout autant. Voilà, on risque toujours d'avoir ça. Donc il faut rester toujours très vigilant sur ce genre de phénomène et les critiquer. Vous disiez au début de l'émission que j'ai eu contre moi les lacaniens et les anti-lacaniens, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que j'ai critiqué tous ces travers-là, et en même temps, j'ai critiqué aussi les anti-lacaniens viscéraux, voilà, qui disent ça, c'est quel horrible bonhomme. Bon, alors, Est-ce que
alors Roustan, je précise, hein, je précise que François Roustan, dont l'émission donc qui passera demain, a été enregistrée hier, ce qui est bien dommage en un sens.
Oui, mais vous savez, j'ai un dialogue avec lui depuis des années.
Voilà, donc ce sera une étape de plus dans le dialogue que vous avez, le dialogue à distance.
Mais Roustan est en même temps quelqu'un de formidable, un psychanalyste important.
On s'en aperçoit demain, je dois dire vraiment. Mais juste, François Roustan, après tout, repérant en lui-même ce dont il se détache, fait presque une psychanalyse de cette façon en reniant Lacan.
Mais c'est
sauf qu'il ne s'en prend pas à Lacan lui-même.
Si, plus maintenant, mais autrefois oui, puisque bon, je connais bien. Non, mais c'est son problème. Ce qui est à mes yeux intéressant, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce que la psychanalyse, plus qu'autre chose, suscite ses passions, ses folies, ses adorations et ses reniements ? Toute l'histoire de la psychanalyse, ça n'est que ça. C'est une bataille, c'est une histoire des passions, plus encore peut-être en France qu'ailleurs, parce que les passions françaises, c'est très, très particulier. Donc, en effet, on voit ce phénomène. C'est pourquoi tant de haine. Je dis toujours qu'il y a trois grandes figures qui ont été haïes. C'est Freud, Einstein et Darwin. C'est quand même formidable. C'est ceux qui ont déconstruit quelque chose, qui ont apporté une telle blessure narcissique que ça continue à susciter les passions. Et Lacan s'inscrit là-dedans. Darwin, regardez aujourd'hui, la haine dans le monde entier, les phénomènes de créationnisme, le rejet. Et périodiquement, il y a des livres noirs de la psychanalyse. Il y a des gens qui haïssent la psychanalyse.
En somme.
Et Lacan, et il faut se battre à la fois contre ça et contre le dogmatisme de toutes les théories. Elles produisent toutes du dogmatisme. Bon. Mais on a les moyens, avec la théorie elle-même, de critiquer le dogmatisme qu'elles ont produit.
Le fond des blessures narcissiques, peut-être le point commun de toutes les blessures narcissiques que vous désignez, que Freud lui-même d'ailleurs se représentait comme autant de blessures narcissiques, qui se décrivait lui-même à la suite de Galilée, hein, comme un grand blesseur narcissique de l'humanité. Le fond de la blessure narcissique, c'est de faire passer l'humanité de l'envie de prendre ses désirs pour des réalités à la nécessité de prendre la réalité pour son désir. C'est à chaque fois ce qui est en jeu ici. Est-ce que vous situez Lacan dans cette ambition ?
Oui, il y a ça. Il y a surtout chez Lacan, je dirais que le défaut majeur, à un moment donné, de Lacan, c'est qu'il pense que seule sa lecture de Freud est valable. Autrement dit, il y a ce que j'ai appelé une relève orthodoxe. C'est qu'à un moment donné, ce garant de l'existence de la vérité va se prendre, lui, pour le seul vrai interprète de Freud. Et c'est là que ça bascule. C'est les années 65-70. Et là, en effet, ça ne va plus. Et le meilleur critique de Lacan, moi, je l'ai trouvé, c'est vrai, Deleuze a été à un moment donné, dont je suis l'élève, a été formidable dans sa critique des dérives du lacanisme. Et d'autre part, Derrida, bien sûr, Jacques Derrida, qui, tout en étant très attentif...
Ne s'est jamais laissé séduire.
Jamais. Et Lacan a été horrible, d'ailleurs, dans ses critiques de Derrida. Mais ça n'a pas empêché Derrida d'être juste avec Lacan. Je crois qu'il faut être juste avec Lacan.
Quand on a entendu Dali tout à l'heure parler de la méthode paranoïa critique, Elisabeth Rodinesco, et terminé d'ailleurs en disant que ce qu'il aimait le plus, après Madame Dali, naturellement, dit-il, c'est l'argent. Est-ce qu'on peut en dire autant de Lacan ?
Oui, il aimait l'argent.
Est-ce que c'est la raison pour laquelle il faisait des séances brèves?
Oui et non. Toujours la même chose.
Pardon
oui,
de poser les questions qui fâchent,
oui
mais il faut les poser
non,
car les gens se les posent.
J'ai montré que oui et non. Voilà. Oui, parce que Lacan avait sans aucun doute l'amour de l'argent, de la fortune, mais non parce qu'il y avait tout à fait autre chose par quoi il était habité, qui était... parce que sinon les gens n'y seraient pas allés. Hein, qui était de chercher, par certains côtés, à formaliser tellement l'inconscient que c'était au prix de cette pratique absolument transgressive. C'est un transgressif. Et à la fin de sa vie, il l'est encore plus. Mais ces histoires de séances ultra courtes que j'ai condamnées radicalement, et chez Lacan, et chez ses élèves, je suis absolument hostile aux séances ultra courtes. Une séance doit durer minimum une demi-heure. C'est évident, l'analyse doit parler, et pas être mutique. Donc, je condamne radicalement cette pratique. Mais Lacan, il faut analyser les phénomènes de transgression. Il faut analyser les différentes époques. Donc, à la fin de sa vie, il avait remplacé la séance par le fait que la rue de Lille où il habitait était le lieu où tout le monde pouvait venir s'installer. Autrement dit, il y avait peut-être des séances de minutes, mais on pouvait s'installer dans le salon à côté et attendre. Il avait transformé son cabinet d'analyste en ce que j'ai appelé un laboratoire de l'extrême. Donc, extrêmement transgressif. Il allait d'ailleurs de plus en plus mal. Bon. Donc, il faut assumer l'héritage dans sa totalité, et puis, Lacan tout en avait étant infidèle, critique avec ce qu'on rejette.
Et Lacan lui-même, d'ailleurs, avait une théorie de l'argent. Il dit « chacun sait », il le disait par antiphrase, que l'argent ne sert pas simplement à acheter des objets, mais que les prix qui, dans notre civilisation, sont calculés au plus juste, ont pour fonction d'amortir quelque chose d'infiniment plus dangereux que de payer de la monnaie, qui est de devoir quelque chose à quelqu'un.
Oui, il a dit ça.
Grande justification du traitement qu'on réserve à son analyste.
Mais Lacan avait d'abord quelque chose de très pulsionnel, c'était un collectionneur. Donc, il avait les collectionneurs, c'est toujours des gens qui ont quelque part cette passion d'amasser la valeur. Voilà, en tout cas, bon, derrière l'art, il y a en effet l'amour de l'argent. Il était collectionneur, possessif. Je pense que son amour de l'argent lui a apporté beaucoup de tort. A été très très mauvaise. Je me souviens quand j'étais allée interviewer Lévi-Strauss, qui évidemment était très proche de Lacan, qui reconnaissait le génie de Lacan sans aucun doute. Il m'avait dit, je le crois que je le transcris d'ailleurs, c'est dommage parce que quand on est un homme de pensée, il faut faire attention avec le culte de l'argent. Il disait pas ça pour les artistes, hein, donc Dali c'est autre chose. Il avait l'amour de l'argent, mais il vendait ses tableaux. Voilà, Lacan vendait des séances, donc il y avait des patients en jeu. Et ça, en effet, c'est pas du tout la même chose. Mais je crois qu'il avait ça, mais il avait aussi autre chose. Hein. Il faut faire le tri.
J'appelle discours ce quelque chose qui, dans le langage, se fixe, se cristallise, qui use des ressources du langage qui sont évidemment beaucoup plus larges, qui ont beaucoup plus de ressources, qui use de ça pour que le lien social entre être parlant, ça fonctionne.
Lacan était passionnant, voilà ce que je veux dire. Il est dommage que ses séminaires à Paris n'aient pas été longuement filmés. Sa manière de faire corps avec ce qu'il disait était fabuleuse. La voix, les raclements de gorge, les retours, les digressions, les sarcasmes, les envolées, les piétinements, les soupirs, tout était musicalement intéressant. Du grand théâtre. La vie est un théâtre. Les anciens du séminaire savent quel plaisir c'était d'aller entendre l'improbable, le surprenant, l'insolite, l'inquiétant, le dérapant, le sidérant Lacan. Il y a une poétique de Lacan comme il y a une poétique de Freud au sens le plus existentiel du terme, d'où les projections, l'effervescence autour de lui, les légendes. Il ne faut pas s'étonner que beaucoup de ses élèves, comme il disait, ou de ses auditeurs libres, se soient soudain retrouvés dans la rue en 1968. L'école normale supérieure n'en est toujours pas revenue et le Panthéon, tout près, a perdu beaucoup de son innocence. Un certain déchaînement verbal de l'époque a eu Lacan comme agent secret. Texte formidable de Philippe Solers pour qualifier Lacan. D'ailleurs, Lacan, penseur du langage par excellence, hein, qui est l'auteur, aux yeux du poète Solers, d'un déchaînement verbal. Vous êtes d'accord avec ça, Elisabeth Rodinesco?
Oui, c'est vrai. Et quand on a tourné
on retrouve l'élément baroque du personnage.
Oui, quand
ici.
On a tourné le film avec Elisabeth Capnis sur Lacan, j'ai pris le témoignage de Salers en off pour décrire Lacan, parce que en effet il était très attentif à ça, et bien sûr je suis d'accord là, mais Salers a été très marqué par Lacan, lui aussi, toute la génération des écrivains, tout le monde était marqué par ce phénomène, en effet, de sa voix, sa manière de parler, cette extravagance aussi.
Mais c'est ce paradoxe en même temps qui veut que voilà un homme qui a dit de l'inconscient, comme chacun sait, hein, qu'il est structuré comme un langage. Donc on se dit, voilà un homme qui a voulu rationaliser l'inconscient, et en même temps qui débouche sur un déchaînement verbal. C'est-à-dire, on se demande si Lacan ne s'est pas pris à son propre jeu, en sens que pour avoir voulu rationaliser l'inconscient, il s'est retrouvé finalement à faire délirer la raison.
Mais s'il avait été qu'un rationaliste de l'inconscient, il ne serait pas Lacan. Donc il y a les deux choses. Il y a l'ombre et la lumière, c'est ce que j'aime d'ailleurs. C'est toujours les lumières sombres. J'aime beaucoup ce mélange. Et je crois que dans l'histoire de la psychanalyse, c'est impensable autrement. Hein. Freud aussi, pas de la même façon. Le corps n'était pas en jeu de cette façon, ce n'était pas extravagant. Mais quand Freud va aller dans les dernières œuvres de sa vie étudier Moïse et la transmission inconsciente, de l'antisémitisme, c'est d'une spéculation absolument incroyable. Quand il va aller chercher l'interprétation des rêves aussi. Donc, il y a cet aspect que j'aime beaucoup. Mais il faut toujours bien montrer qu'il y a les deux. Et chez Lacan, les deux se contredisent d'une façon extraordinaire. Je crois que j'ai même dit à un moment donné que Lacan luttait contre lui-même en permanence. Il y a un diable dans Lacan. Il y a un diable et il y a quelqu'un qui lutte contre son propre aspect diabolique.
Grand merci Elisabeth Roudinesco, c'était comme à chaque fois un bonheur de vous entendre parler de psychanalyse, en particulier de Jacques Lacan. Alors, beaucoup de choses à dire à nos auditeurs, hein, qui peuvent se procurer chez Arte Vidéo le DVD Jacques Lacan, la psychanalyse réinventée, le film d'Elisabeth Capnist écrit avec vous Elisabeth Roudinesco. On trouve également la conférence, la fameuse conférence de Louvain en 1900 que Jacques Lacan avait donnée en 1972. Je signale aussi la reparution donc en livre de poche de votre histoire de la psychanalyse en France et de votre biographie de Jacques Lacan, deux textes tout à fait passionnants, ainsi qu'un retour sur la question juive, donc paru chez Albin Michel dans la bibliothèque des idées. C'est la bibliothèque idées, non pas la bibliothèque des idées, à ne pas confondre. Enfin, je signale l'existence, encore une fois, de 14 DVD intitulés donc Être psy, un coffret formidable qu'on peut offrir à Noël, par exemple. C'est les éditions Montparnasse qui le proposent. Des entretiens de 1983 et de 2007, c'est la même personne et pourtant tout le monde a changé. C'est de la leçon également de ces DVD absolument remarquables.
You know my name, baby. You know my name. You know my name. You know my name.
Oh, let's hear it! Come on, Dennis, let's hear it for Dennis O'Fell.
Voilà, la preuve par le son que les Beatles n'étaient pas moins fous que Jacques Lacan, You Know My Name.